Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu du jour, la campagne électorale en Australie, elle a officiellement démarré cette semaine et on ne peut pas dire qu'elle se soit très bien passée pour les travaillistes et pour leur leader, Anthony Albanese. On ira aussi voir ce qui est au programme de l'Alliance française de Perth en ce mois d'avril. Et puis, on vous fera écouter également le dernier épisode de notre série « Mon bébé Covid » qui raconte comment ça se passe d'avoir un enfant au milieu d'une pandémie mondiale. Mais pour l'instant, place à l'info, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 16 avril 2022. En Australie, le Parti travailliste s'engage à instaurer une commission fédérale anti-corruption. En Ukraine, après avoir perdu l'un de leurs navires au large d'Odessa, les Russes intensifient leurs offensives. Enfin, à Shanghai, en Chine, le ras-le-bol de la population soumise depuis 15 jours à un confinement drastique. Malgré la trêve pascale, la campagne électorale en Australie continue ce week-end. Ce matin, les travaillistes se sont ainsi engagés, s'ils sont élus en mai prochain, à mettre en place une commission fédérale sur l'intégrité des élus. Scott Morrison, qui avait promis de le faire avant d'être réélu en 2019, n'a finalement pas créé une telle commission. Le travailliste Jason Clare a précisé à la chaîne ABC que la commission qu'il souhaite mettre en place tiendra des audiences publiques.
I think most Australians would think if a royal commission can hold public hearings, so should an anti-corruption commission investigating corrupt politicians. An anti-corruption commission also needs to be able to commence its own investigations. Under the model that Scott Morrison was proposing, it can only commence an investigation if it's ticked off by cabinet. Now, that's the sort of thing you'd expect in some sort of authoritarian regime overseas. If you don't think corruption is real in Canberra, you're not looking for it.
De son côté, le Premier ministre Scott Morrison était aujourd'hui en déplacement de campagne à Melbourne, où il a été assailli de questions à propos de la candidate libérale qu'il a imposée dans la circonscription de Warringah, Catherine Daves. Cette dernière s'est plusieurs fois opposée publiquement à la participation d'athlètes transgenres à des compétitions féminines. Elle est même allée jusqu'à comparer ce combat à la résistance contre l'Holocauste. Des propos bien évidemment dénoncés et à propos desquels elle a depuis multiplié les excuses, mais pour le trésorier de Nouvelle-Galles du Sud, Matt Kean, également membre du Parti libéral, le mal est déjà fait et il appelle son parti à retirer son soutien dans le cadre de ses prochaines élections fédérales à donc Catherine Daves, un avis qui n'est pas partagé par Scott Morrison.
I don't share Matt's view. I share Tony Abbott's view. I'm not joining that pile-on. And she has learned from her experiences about how she's sought to deal with this issue in the past. And I have no doubt that she'll pursue these issues in a more sensitive way and more respectful way in the future.
Un mot maintenant sur le Covid avec la détection d'un nouveau sous-variant dans les eaux usées de l'État du Victoria près de Tullamarine au nord de Melbourne. Ce sous-variant issu de la souche Omicron n'était jusqu'à présent jamais apparu en Australie. En revanche, un petit nombre de cas a été recensé dans divers pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana, mais aussi la Belgique, le Danemark, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. L'OMS, note pour sa part qu'à l'heure actuelle, il y a peu de différence entre ce nouveau sous-variant et le variant Omicron. Au lendemain du naufrage du navire Moskva au large d'Odessa, les Russes ont bombardé une usine d'armement située dans la banlieue de Kiev. En parallèle, le siège de Marioupol, entamé il y a maintenant plus d'un mois, se poursuit et maintient une pression forte sur les habitants, à tel point d'ailleurs que ceux-ci ne savent plus où enterrer leurs morts. On écoute à ce sujet le reportage d'Anissa El-Jabri, envoyée spéciale de RFI à Marioupol.
C'est le dernier de cette allée pavillonnaire à rester dans ce quartier à 1 kilomètre des derniers combats autour de l'usine Azovstal. Autour de cet homme, les maisons vides de ses voisins et leurs chiens qui hurlent à chaque tir. Dans son jardin, le corps de sa mère.
Le 9 mars, ma mère est décédée à l'âge de 82 ans. Lorsqu'ils ont coupé l'électricité et le gaz, la température est tombée à 1 degré. Elle est simplement morte de froid. Je l'ai enterrée dans le jardin à cause des bombardements constants. Quand nous creusions sa tombe, des obus passaient au-dessus de nos têtes. J'ai été aidé par le parrain de mon fils et un ami. À nous trois, cela nous a pris 2 heures. Je l'ai enroulé dans des draps et des couvertures pour pouvoir l'exhumer plus tard. Et je l'ai recouverte de vieilles grilles en métal pour que les chiens ne la déterrent pas. Parce que je ne pouvais pas l'enterrer très profondément sous les décombres.
Cet homme n'attend qu'une chose, pouvoir enterrer sa mère dans un cimetière. D'autres comme lui à Marioupol, en attendant, se rendent à l'église la plus proche, déposent de petits papiers devant une bougie ou de l'encens, c'est Alexander qui en prend soin.
Ici, il est écrit Vacheslav, récemment décédé des suites d'une maladie. Jetons un coup d'œil au suivant. Maria, récemment décédée et décédée des suites d'une maladie. Dimitri Pushkajov, récemment décédé des suites d'une maladie. 9h40, tué Constantine, nouvellement parti. Nous ne procédons pas à des enterrements ici. Le service est pour les âmes des morts ou tués.
Pas assez de médicaments qui arrivent ou combat entre les morts et ceux qui ont quitté la ville, la cité portuaire noircie, en ruine, ressemble de plus en plus à une ville fantôme. Anissa El-Jabri, Marioupol, RFI.
L'étendue des horreurs commises à Boutcha, cette petite ville en banlieue de Kiev, est chaque jour un peu plus apparente. La police ukrainienne a ainsi révélé que plus de 900 cadavres avaient été retrouvés après le retrait des troupes russes. Pour le chef de la police régionale, Andriy Nebitov, il n'y a aucun doute, ces gens ont tous été tués par l'armée russe.
I want to say that the number of killed civilians has surpassed 900. And I emphasize, these are civilians whose bodies we've discovered and handed over for forensic examination. This is more than 900 people currently killed at the hands of the Russian army.
De son côté, l'ONU estime désormais que plus de 5 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur foyer pour fuir les combats. Les combats, ils se mènent également sur la scène diplomatique entre Washington et Pékin, puisque le chef de la CIA américaine a accusé la Chine d'être le partenaire silencieux de Vladimir Poutine dans cette guerre menée en Ukraine. William Burns reconnaît par ailleurs que la Chine vise désormais clairement à supplanter les États-Unis en tant que première puissance mondiale. Écoutez-le.
A silent partner in Putin's aggression, Xi Jinping's China is our greatest challenge, in many ways the most profound test that CIA has ever faced. The People's Republic of China is a formidable competitor, lacking in neither ambition nor capability. It seeks to overtake us in literally every domain, from economic strength to military power and from space to cyberspace. Its rise has been remarkable.
Face au coronavirus, la Chine est l'un des derniers pays au monde à maintenir une stratégie zéro Covid, une approche qui se traduit notamment par le confinement strict des 25 millions d'habitants de Shanghai depuis maintenant 15 jours, une situation de plus en plus invivable pour les habitants de cette ville. Le correspondant de RFI à Pékin, Stéphane Lagarde, a pu le constater en prenant contact avec des Français vivant dans la capitale économique chinoise.
Pour moi, c'est un peu comme une scène de guerre, quoi, où il y a un couvre-feu.
Une ville sous couvre-feu, voilà l'image que Marc emporte de Shanghai en prenant le vol d'Air France pour Paris ce soir. 8 ans que ce musicien vit dans l'une des mégalopoles les plus animées de Chine, qu'il ne reconnaît plus depuis sa mise sous cloche. Avec la peur, non pas du virus, mais d'être envoyé en centre de quarantaine collective. Benjamin, négociant en vain.
Personnellement, j'avais préparé ma valise pour partir dans les centres de quarantaine. C'est même pire qu'un prisonnier, en fait, parce qu'un prisonnier, on a des droits. Là, clairement, on n'a aucun droit.
Depuis quelques jours, la vidéo des Misérables table tourne sur les groupes WeChat des Français de Chine, se lever et dire non aux restrictions. Chacun a ses raisons de partir. Mais pour Marc, c'est un mouvement de fond.
Au fil du temps, ils se rendent compte que c'est de plus en plus compliqué de rentrer en France en étant sûr de pouvoir revenir en Chine. Donc il y a une grosse vague de familles étrangères qui vont partir.
Le confinement qui accélère les choses. La résidence d'Élise n'a pas enregistré de cas positifs depuis 14 jours. Cette mère de 4 enfants est soulagée. Elle a pu embarquer.
Nous, en fait, on n'en peut plus de scanner des QR codes partout, montrer des papiers. Ça vous épuise. Nous, je pense que il y a une annonce dans l'aéroport. Je pense que ces deux années, en fait, nous ont épuisé en partie notre capital expatriation. C'est un ressenti 5 ans, 6 ans. Quoi.
Shanghai coupé du monde. Ce vendredi, seul Hong Kong, Paris et Helsinki étaient sur le panneau des départs. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
On prend maintenant la direction de l'Afrique du Sud après des inondations catastrophiques qui ont frappé la province du KwaZulu-Natal. On estime que ces inondations auraient fait près de 400 victimes et par ailleurs, des dizaines de milliers d'autres personnes sont désormais sans abri. Une catastrophe qui s'est abattue hier, le jour du Vendredi Saint, un événement religieux très suivi en Afrique du Sud. Raymond Perry, qui dirige une organisation caritative chrétienne, estime que même dans l'adversité, il faut garder espoir.
So many reasons to lose hope, to be despairing at this time. And the Christian message is that even in the face of darkness, there is light. Even in the face of despair, there is hope.
Et on reste en Afrique pour évoquer cet accord annoncé jeudi, entre la Grande-Bretagne et le Rwanda à propos des migrants. Cet accord qui s'inspire du modèle australien et de ses centres de détention offshore consiste pour l'Angleterre à envoyer ses réfugiés entrer illégalement sur son territoire au Rwanda, qui, en contrepartie, doit recevoir une aide financière de 144 millions d'euros. Ce programme est dénoncé par de nombreuses organisations des droits de l'homme, mais il fait également polémique au pays des Mille Collines. Les membres de l'opposition rwandaise estiment que le pays n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour accueillir ses réfugiés. Je vous propose d'écouter à ce sujet Victoire Engabir, le président des Forces démocratiques unifiées. Il s'est confié sur le sujet à RFI.
Nous pensons que les pays riches comme la Grande-Bretagne ne doivent pas transférer leurs obligations à des pays tiers comme le Rwanda juste parce qu'ils ont assez d'argent pour influencer et imposer leur volonté. Le Rwanda a déjà une population assez dense, il n'y a pas assez de terres pour tout le monde, il y a déjà des conflits fonciers et une compétition pour les ressources naturelles. Accueillir des migrants venant de Grande-Bretagne ne fera qu'accentuer encore plus ce problème de terres, va poser des défis au quotidien et risque de créer des conflits entre Rwandais et migrants. Nous avons déjà nos propres problèmes que nous devons résoudre. La jeunesse, par exemple, qui essaye de survivre sans travail. Le problème du chômage s'est empiré avec l'épidémie de Covid et envoyer des migrants ici ne va qu'exacerber ce problème. Nous pensons que le Rwanda, qui va accueillir le sommet du Commonwealth dans quelques mois, a voulu faire plaisir au Royaume-Uni. Mais les Rwandais, eux, n'ont rien à gagner de cet accord.
On prend la direction de la France où hier, Emmanuel Macron s'est rendu sur le site de Notre-Dame de Paris 3 ans, jour pour jour, après l'incendie qui a ravagé non seulement son toit, mais également détruit sa flèche. Les travaux de reconstruction doivent être achevés en 2024 à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. Par ailleurs, nous sommes désormais à J-8 du second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, au fil de leurs déplacements respectifs, se rendent coup pour coup. Et de son côté, la gauche et ses différentes composantes se projettent déjà sur les élections législatives. Elles se tiendront au mois de juin. Et si toutes les formations politiques conviennent d'un nécessaire rapprochement pour peser dans le prochain quinquennat, les divergences persistent au sein de la gauche française et ces divergences restent effectivement très importantes. On fait le point là-dessus avec Aurélien Devernoy pour RFI.
150 députés de gauche, c'est possible. Voilà déjà un point d'accord entre insoumis, écologistes, communistes et socialistes. Le problème, c'est comment atteindre cet objectif. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est simple, une alliance où chacun se verra accorder des circonscriptions au prorata de son poids électoral à la présidentielle, c'est-à-dire beaucoup pour son parti et pas grand-chose pour les autres. Une alliance Pourquoi pas, répond le patron des Verts, Julien Bayou, mais pas à ces conditions. Les écologistes veulent que soient pris en compte leurs résultats aux élections municipales et régionales, qui leur avaient été nettement plus favorables. Une excellente idée, selon les socialistes, qui ont le plus grand nombre d'élus au niveau national, sauf que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler du PS, qui l'a durement critiqué pendant la campagne présidentielle. Alors dans les états-majors, on imagine déjà un double système. Les insoumis travailleraient avec les écologistes et les communistes, qui passeraient de leur côté des accords avec les socialistes, un pacte de non-agression pour ménager tous les partis, mais surtout pour ne pas éloigner des électeurs toujours en demande d'union de la gauche.
Un petit mot pour finir sur la météo du jour. Grand soleil et 26 degrés à Perth, 30 degrés à Adelaide où il fait également très beau aujourd'hui, 27 degrés à Melbourne, 24 à Sydney. Quelques nuages en revanche dans le ciel de Brisbane avec 26 degrés et une maximale de 34 degrés à Darwin ce samedi où on peut s'attendre également à quelques orages. Le magazine des sports, c'est parti et on commence tout de suite avec le football. Les quarts de finale retour en Liga Europa se sont joués jeudi soir et une énorme désillusion pour l'Olympique Lyonnais qui s'est fait sortir par le club anglais de West Ham qui l'emporte au Stade Gerland sur le score de 3-0. Autre surprise de cette soirée, la défaite du FC Barcelone face au modeste Eintracht Francfort qui l'emporte lui 3-2 et se qualifie donc pour les demi-finales. Pour ce qui est de la Ligue 1, Monaco est allé s'imposer hier soir face à Rennes 3-2. Mais le match le plus attendu du week-end, il se jouera ce dimanche, c'est le fameux Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Actuellement, ils sont premiers et deuxièmes du championnat de Ligue 1. On passe maintenant au tennis puisque l'affiche des demi-finales hommes de l'ATP Masters 1000 de Monte-Carlo est désormais connue. C'est ce soir que s'affronteront donc Davidovic et Dimitrov dans un premier match, tandis que les numéros 2 et 3 mondiaux actuels tenteront de remporter une place en finale quelques heures plus tard. Il s'agit de l'Allemand Zverev et du Grec Tsitsipas. Un mot maintenant sur le cyclisme avec ce soir le début du Paris-Roubaix Femmes. La compétition qui se tient pour la deuxième année consécutive sera à suivre sur SBS en direct à partir de 21h30 heure de Sydney. Pour ce qui est de la compétition masculine, la course sera lancée dimanche. Là aussi, vous pourrez la vivre en direct sur SBS également à partir de 21h30. Voilà, le magazine des sports c'est fini pour aujourd'hui. Une nouvelle édition demain, elle sera présentée par Jean-Noël Ducasse. Cette fois, c'est bel et bien lancé. Dimanche dernier, Scott Morrison a annoncé la date des prochaines élections fédérales. Elles auront lieu le samedi 21 mai et la campagne électorale a donc officiellement démarré. Pour l'heure, les sujets de fond ne sont pas vraiment abordés. Il s'agit avant tout d'une campagne où les deux grandes formations politiques australiennes misent sur le rejet ou la crainte de leur adversaire. Ainsi, Scott Morrison, lundi, a insisté lourdement sur un cliché véhiculé depuis des décennies par la droite australienne à propos des travaillistes, à savoir que ces derniers sont incapables de gérer les finances publiques et l'économie.
A Labour opposition that we know can't manage money. people know that, that haven't been able to demonstrate any proven track record, have no economic plan and are unknown after 3 years. And so we can't risk Labor with the uncertainty that we're facing. And the proven economic management record of our government means we can guarantee the essential services, we can invest in our defence forces, we can keep Australians safe and we can ensure we can deal with the cost of living pressures that they're facing right now.
Malheureusement pour Anthony Albanese, lors de sa première conférence de presse en marge d'un déplacement en Tasmanie, il a donné à la coalition un bâton pour se faire battre, puisqu'il a été incapable de répondre à la question d'un journaliste qui l'interrogeait sur le taux de chômage actuel en Australie.
National unemployment rate at the moment is I think it's 5.4, sorry. I'm not sure what it is.
Un moment plutôt embarrassant, repris et abondamment commenté par la presse australienne dans les jours qui ont suivi, certains de ces journalistes allant même jusqu'à dire qu'avec une telle bourde, l'élection était déjà perdue pour les travaillistes. En tout cas, il n'en fallait pas davantage pour les membres du gouvernement Morrison pour appuyer là où ça fait mal, à l'image de Simon Birmingham, le ministre des Finances.
Look, in relation to Mr. Albanese, it's a demonstration that not only does he not really have a plan for the economy, but he also just doesn't understand how our economy works and the nature of our labour market.
Au jeu des questions-pièges, celui qui n'est pas tombé dans le panneau, c'est le leader des Verts, Adam Bent. Après avoir présenté les mesures phares de son programme au National Press Club, qui inclut notamment la sortie du charbon et du gaz naturel dans les 10 ans, l'inclusion des soins dentaires dans Medicare, mais aussi l'instauration d'un impôt sur la fortune, un journaliste du Financial Review pense lui poser une colle, et voici comment Adam Bent s'en est sorti.
And just very quickly, talking of abject fact-checking exercises, what's the current WPI?
Well, Google it, mate. I mean, like, I am sick. If you want to know, if you want to know why people are turning off politics, it's because what happens when you have an election that increasingly becomes this basic fact-checking exercise between a government that deserves to be turfed out and an opposition that's got no vision. This is what happens. Like, elections should be about a contest of ideas. Politics should be about reaching for the stars and offering a better society.
Le débat d'idées pour l'instant dans cette campagne n'est effectivement pas très animé, les candidats principaux se contentant d'annoncer, au fil de déplacements soigneusement orchestrés, des versements de subventions pour tel ou tel projet local ou la mise en place de nouvelles structures comme ces cliniques d'urgence que les travaillistes veulent déployer. Mais pour la coalition comme pour le Labour, difficile de comprendre quelle est leur vision pour le pays à long terme ou si tout simplement ils en ont une. Et puis, les candidats sont par ailleurs vite rattrapés par l'actualité, comme Anthony Albanese, interrogé jeudi sur la politique australienne de refoulement en mer des migrants et demandeurs d'asile.
We'll turn boats back. Turning boats back means that you don't need offshore detention.
Les centres de détention offshore, où sont enfermés des demandeurs d'asile ayant tenté de rejoindre l'Australie avant d'avoir obtenu un visa en bonne et due forme, sont critiqués à l'international par de nombreuses ONG. Mais ils constituent, d'après la coalition, le rempart absolu contre un afflux supposé de migrants qui déferlerait sur les côtes australiennes. En laissant donc entendre qu'il souhaitait les voir fermés, Anthony Albanese a une fois de plus prêté le flanc à la critique acerbe de Peter Dutton, qui s'est très rapidement exprimé après cette nouvelle gaffe.
I mean, if Anthony Albanese said that now, you would expect the people smugglers to be jumping for joy.
Dans la foulée, Scott Morrison, qui était ministre de l'immigration dans le gouvernement de Tony Abbott, n'a lui pas manqué de rappeler qu'il avait toujours été très ferme en matière d'immigration.
You know who I am, and when it comes to border protection, I tell you who knows who I am. The people smugglers.
Et c'est ainsi que s'est terminée cette première semaine de campagne électorale qu'on peut difficilement qualifier de réussite pour les travaillistes puisque leur leader a dû à plusieurs reprises préciser ses propos. Ainsi, sur les centres de détention offshore, il a indiqué n'avoir absolument pas l'intention de les fermer. Il a par ailleurs rappelé que ce sont les travaillistes dans le gouvernement de Kevin Rudd qui les avaient ouverts en 2013. Pour l'instant, les sondages donnent toujours une large avance aux travaillistes en termes d'intention de vote, mais il va falloir maintenant essayer de la conserver, au risque pour ces derniers de passer 3 années de plus sur le banc de l'opposition. Vous avez sans doute reconnu ce morceau, Je t'emmène au vent, un classique du rock français interprété par le groupe Louise Attaque, un morceau qui fête par ailleurs cette année ses 25 ans. Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français, 13h29. Je vous propose maintenant d'écouter le troisième et dernier épisode de notre série « Mon bébé Covid ». Le bébé en question désormais est né. Le confinement vient d'être levé à Melbourne, mais à cette époque, ou plutôt au moment où nous avons mené cette interview, les frontières du pays ne sont toujours pas ouvertes. On y va.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
D'abord les grands-parents, tous mes amis qui sont à Melbourne, je les ai déjà pratiquement tous vus. La famille Jason, on a vu une partie parce qu'il a une très très grande famille. Et puis j'ai eu des coups de téléphone, mon boss m'a appelé, la HR, j'ai eu les cadeaux qui ont été livrés presque tous les jours, elle a été super gâtée. Mais c'était gai en fait de voir des gens parce que j'avais plus vu personne depuis le lockdown, donc ça faisait du bien de revoir les amis.
Le 23 octobre 2020, à 1h12 du matin, Laetitia et Jason accueillent Charlotte, un bébé de 3,12 kg en parfaite santé. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les visites sont de nouveau autorisées à domicile.
We are the creative capital, the cultural capital, the major events and sporting capital, and we are the get vaccinated fast capital. And I'm so proud of every Victorian who's done that. That's why today we can end the lockdown. That's why today we can begin really meaningful steps to open up our city and state, to have our freedoms back.
Nous rencontrons Laetitia en personne pour la première fois et par la même occasion sa petite Charlotte. Un mois après la naissance, la jeune maman nous fait part de ce qu'elle ressent.
Ouais, le bœuf en lui-même. Ça, par contre, ça faisait mal. Hein. Mais tu sais, tu avais fait tous ces cours tous, pour méditer, pour te sentir bien avant l'accouchement. Bah, laisse tomber, quoi. Mais moi, j'ai juste pas eu de chance. En fait, j'ai eu les contractions qui sont arrivées assez vite déjà le lundi, parce qu'elle est née le vendredi. J'avais déjà des contractions très très fortes dès le lundi, mais pas assez régulières. Mais en fait, ce qui se passe, on pense en tout cas que j'ai dû me faire mal à un muscle. Et donc la contraction à chaque fois, elle poussait sur le muscle. Et c'est pour ça que moi, mes contractions étaient beaucoup plus fortes, ça faisait super mal. Et le jeudi, je n'en pouvais plus... Je suis arrivée, j'ai vu la midwife, j'étais en pleurs. sortez-la, je peux plus. et puis alors après, ils espéraient que je puisse quand même faire un accouchement naturel, mais en fait, ça s'ouvrait pas. Donc, du coup, s'il n'y a pas de dilatation, donc on peut rien faire en fait. They broke the water. Et puis, donc ils l'ont fait eux-mêmes. Ouais. Et puis après ça, ils ont quand même attendu quelques heures pour voir si ça allait se dilater. Et il n'y a rien eu. Et donc après, c'était emergency C-section parce que tu vois, il y avait son cœur qui battait plus assez vite. Et puis tout à coup, t'as genre 10 personnes dans la salle, quoi. C'est panic room, quoi. T'as tout le monde qui, enfin, tu vois qu'il y a un problème en fait. Consciente et en même temps, tu es dans un autre monde puisque j'étais sous épidural et j'avais aussi pris, tu sais, le gaz. Tu sais, c'est un peu comme quand tu prends le gaz des ballons. Bah, du coup, ils te donnent ça en fait. Mais moi, j'avais tellement mal, j'arrêtais pas d'en prendre. Et du coup, moi, j'étais loin. Apparemment, je rigolais. Et Jason, il était là, mais c'est pas normal, elle a mal, elle rigole. Et en fait, c'est une réaction humaine normale. Quand la douleur est trop intense, tu peux avoir une réaction de rire, en fait. Tellement c'est intense, quoi. Donc, la césarienne, ça s'est bien passé. Le seul truc qui est bizarre qu'on te dit pas, c'est que, enfin, ils te le disent juste avant l'opération. Mais ce que je savais pas ça avant, en fait, c'est que tu sens toute l'opération. Tu te donnes l'épidurale. Donc, tu es endormi, tu as aucune douleur, mais tu sens tout ce qui bouge dans ton corps. Et tu as tellement de personnes dans la salle d'opération, plus de 10 personnes. Et puis, c'est trop drôle parce qu'ils ont tous leur rôle. Et puis, tu as deux infirmières. Leur rôle, c'est juste tenir un essuie en dessous d'une lampe. Et comme ça, dès que le bébé arrive, boum, ils enrobent le bébé. C'est un truc de dingue. Ils sont super bien organisés, en tout cas.
Laetitia se livre, se confie et pose des mots sur son bonheur.
Franchement, je réfléchis à toute ma vie. C'est la douleur la plus intense que j'ai jamais eue. Mais je ne m'en rappelle pas. C'est ça qui est trop bizarre. Je me rappelle que c'était intense et que j'étais en agonie. Je ne me rappelle pas de la douleur. Le fait d'être maman, j'imagine. On a d'abord donné à Jason. Je crois qu'elle était plus ou moins nettoyée. Ils l'ont donné à Jason. Ils ont fait skin-to-skin contact avec moi. Et puis après, Jason l'a reprise. Skin-to-skin contact avec elle. Et puis après, ils me l'ont redonné plus tard dans la chambre. Mais c'est vraiment bizarre, hein. Tu sais, c'est un peu irréel. Enfin, tu vois, t'es enceinte 9 mois, enfin 10 mois presque. Et puis tout à coup, t'as un bébé dans tes bras. Franchement, même si elle était dans mes bras, pour moi, ça, c'était toujours pas réel. Tu sais pas trop, t'es contente, les émotions, tu sais pas trop comment t'exprimer, c'est trop bizarre. Et puis alors après, t'es dans les nuages. Les deux premières semaines, j'ai pas eu le baby blues, mais tous les jours je pleurais en disant ah, elle est trop belle, ah, je l'aime tellement, tu vois, des pleurs de joie. Tous les jours je la regardais et je pleurais.
Elle nous raconte son accouchement. Après seulement une nuit à l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Les restrictions sanitaires ont été allégées quelques jours plus tôt. Une sage-femme a donc pu venir s'occuper d'elle.
Normalement, après une césarienne, tu vas rester au moins deux nuits. Moi, j'aime pas rester à l'hôpital, donc je partais après une nuit. Et puis, je me sentais déjà mieux, tu vois. Et j'ai vraiment récupéré super vite. Même ma morphine, etc. Tu vois, ils te donnent des médicaments assez forts pour les premières semaines. Et j'ai arrêté après une semaine. Et j'étais déjà bien, quoi. Donc, la midwife, elle est venue à la maison 3 fois. Puis, elle a dit, ah, ben, toi, tu vas bien. La petite va bien. L'allaitement se passe bien. Elle grandit bien. Donc, tout va bien. Ils viennent en fait chez toi avec pour peser le bébé, pour savoir que tout va bien, pour être sûr que le bébé n'a pas la jaunisse, etc. Et puis ils checkent aussi que tout va bien en fait.
À leur tour, les proches de Laetitia et Jason ont pu se rendre chez eux, profiter de la famille au complet.
D'abord les grands-parents, tous mes amis qui sont à Melbourne, je les ai déjà pratiquement tous vus. La famille de Jason, on a vu une partie parce qu'il a une très très grande famille. Et puis j'ai eu des coups de téléphone. Mon boss m'a appelé, la HR, j'ai eu des cadeaux qui ont été livrés presque tous les jours. Elle a été super gâtée. Mais franchement. C'était gai, en fait, de voir des gens, parce que j'avais plus vu personne depuis le lockdown. Donc, ça faisait du bien de revoir les amis. Et puis, samedi passé, on est allé à un anniversaire. Donc, c'est la première fois qu'on est en sortie avec la petite, qu'avant, j'osais pas, parce qu'elle pleurait tout le temps dans son landau. Elle détestait le landau. Mais par contre, la voiture, ça allait. Donc, on est allé à Saint-Kilda. C'est quand même 40 minutes de voiture. Elle a pas pleuré. Elle s'est endormie. On est resté à la fête quelques heures. Elle était hyper calme. Je l'ai allaité quand il fallait, tu vois, je m'écarte, je me mets dans un coin et voilà.
Les nouveaux parents tâtonnent, apprennent et souhaitent élever Charlotte dans le respect des traditions familiales.
Du coup, on fête son anniversaire parce qu'apparemment, dans la tradition chinoise, tu fêtes les 1 mois. Normalement, c'était avec toute la famille, mais bon, avec les restrictions, on n'était pas trop sûrs. Comment ça allait se passer. Donc là, c'est juste les grands-parents qui viennent ce soir. J'ai essayé de trouver une Charlotte fraise. Parce que son nom, c'est Charlotte, mais j'ai pas trouvé la traditionnelle Charlotte aux fraises avec les boudoirs, mais Laurent, la pâtisserie Laurent, ils font une Charlotte aux fraises, mais style moderne, quoi. Donc j'ai acheté ça ce soir. Oh là 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 là!
retrouve Laetitia une dernière fois en juin 2021. Charlotte a presque 8 mois. Elles viennent de vivre leur premier confinement depuis que Charlotte est née. Il n'a duré que 2 semaines. Elles ne savaient pas à ce moment-là que plusieurs autres suivraient. Laetitia a repris le travail depuis plusieurs mois. Pour s'occuper de Charlotte la journée, elle se fait aider par les parents de Jason.
Tu as moins le sentiment de culpabilité quand c'est la famille, je ne sais pas expliquer. Quand je la dépose à la crèche, je me sens coupable. Quand je la dépose chez ses grands-parents, je ne me sens pas aussi coupable, je ne sais pas expliquer. Peut-être parce que c'est encore la famille, je ne sais pas.
Un support familial qui compte beaucoup pour le jeune couple. Laetitia se félicite que la notion de famille soit importante ici en Australie.
Ah ouais, je pense que Covid, comme tu l'avais dit, hein, de manière générale, je pense que l'avantage pour tout le monde, c'est qu'on a passé beaucoup, enfin, qu'on passe beaucoup plus de temps avec la famille. Ça, c'est chouette. Et aussi le fait que maintenant, toutes les sociétés, ben, y a plus de confiance, tu vois, vis-à-vis des employés. Parce qu'avant, bon, en Australie, enfin, moi, j'ai toujours travaillé pour des employeurs qui étaient assez flexibles, qui m'autorisaient à travailler de la maison. Pas tous les jours, hein, un jour semaine. Avant Covid, je travaillais toujours un jour semaine de la maison. Alors que j'avais pas d'enfant, etc. J'avais juste négocié. J'aimais bien être un jour semaine à la maison. Je pense pas qu'en Belgique ou en France, on pourrait obtenir ce genre d'exception. Mais maintenant, avec Covid, j'espère que ça va ouvrir les yeux des employeurs en Europe. En tout cas, en Australie, c'est encore plus flexible.
Au cours d'une de nos discussions, et malgré sa perpétuelle attitude optimiste, Laetitia réalise finalement qu'elle a été plus affectée qu'elle ne le croyait par ces longs confinements.
Si vraiment on devait être de retour au gros confinement, confinement stage 4, pendant des mois, comme l'année passée, ben non, ça, je signe pas pour ça. Franchement, j'aurais pas pu. Franchement, là, je serais tombée en dépression. Et pourtant, franchement, j'aurais pas pu le faire une deuxième fois. C'était 9 mois presque, hein, Melbourne, l'année passée, et on a tenu le coup, etc. Mais tu sais, après, tu te rends compte que ça t'a quand même impacté mentalement. En fait, tu ne t'en rends pas compte sur le moment même. T'es là, ouais, bon, c'est la vie. Parce que quand tu es dedans, tu n'as pas le choix. Donc, tu acceptes. Tu dois accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, ben, tu ne vas pas le vivre bien. Tu vas être dépressif. Donc, c'est un peu mode survival mode. Tu vois, tu acceptes la situation. Tu vis avec. Tu restes positif. Tu vois le positif, etc. Mais une fois que tu en es sorti, tu n'as pas envie d'y retourner. Ah, je t'assure, franchement, tous mes amis ou collègues, quand on en parle, on veut plus, enfin, il faut vraiment plus nous parler d'un lockdown comme ça, quoi. Franchement, c'était beaucoup trop long.
Mais maintenant que Melbourne est enfin déconfinée, Laetitia n'a qu'un objectif en tête, voyager au plus vite, sa fille à ses côtés.
Mais bon, j'espère un jour que je pourrai aller en Chine avec Charlotte pour lui montrer ses origines. Et aussi parce que j'adore ce pays, mais ouais. Mais en fait, si tu me demandes, la seule chose négative de Covid, pour moi, c'est le fait que je ne puisse pas voyager, comme je suis une grande voyageuse, et ça me manque, mais terriblement.
Charlotte continue de grandir très, trop vite. Le couple se découvre encore chaque jour en tant que parents. Laetitia s'émerveille, et nous avec elle.
Franchement, elle est trop adorable, elle est toujours souriante, elle rigole, elle est vraiment trop trop chute. Et là maintenant, elle ne s'est pas encore crawlée, mais elle arrive à aller d'une pièce à l'autre. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait elle roule sur elle-même et c'est comme ça qu'elle se déplace. C'est trop, trop drôle à voir. On dirait genre, dans les films d'action, tu vois, il y a des sortes d'acrobates, ouais, ben, elle me fait penser à ça en fait. Elle est trop drôle. Et puis maintenant, elle sait aussi applaudir. Alors, elle adore applaudir. Elle dit da 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 da. Donc maintenant, je sais qu'elle va sans doute dire dad avant maman, puisqu'elle sait déjà dire da da da. Donc c'est pour ça qu'en fait, les enfants, en tout cas en anglais, ils disent plus facilement dad, parce que c'est très proche de ce qu'ils disent, da 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 da. Donc, elle est trop trop chute. Franchement, on a de la chance, elle est en bonne santé, elle est rigolote, elle a de la personnalité. Parce que j'aime bien quand un enfant a sa petite personnalité, tu vois. Parfois, elle n'est pas contente, elle te le montre et tout, elle sait ce qu'elle veut. Ouais, moi j'aime bien ça.
Au total, nous avons suivi Laetitia pendant près d'un an, au cœur d'une pandémie mondiale qui a marqué les esprits et les âmes. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons consacré un podcast à son histoire et à celle de son bébé Covid.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench. Ce morceau, c'était Radio Londres, le dernier titre du chanteur Axel Bauer. Pour finir cette émission, on va maintenant prendre la direction de Perth et on va parler des activités prévues ce mois-ci à l'Alliance française.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien, je suis avec Thomas Feldstein, qui est le directeur de l'Alliance française de Perth. Bonjour et bienvenue à nouveau sur SBS French, Thomas.
Bonjour, merci à nouveau de m'accueillir.
Et l'Alliance française, on va parler de l'Alliance française French Film Festival de 2022. Le bilan que vous faites pour le moment, c'est est-ce que c'est un festival bien réussi? Vous avez beaucoup de spectateurs dans les salles?
Alors, je vais être tout à fait honnête et transparent, pas autant qu'on l'aurait souhaité. Ici à Perth, je ne sais pas si c'est bien évident pour le reste de l'Australie, mais nous sommes en plein pic de l'épidémie de Covid, qui a vraiment démarré tout début mars. Voilà, aujourd'hui, c'est 6 000, 7 000, 8 000 nouveaux cas chaque jour, 200 personnes hospitalisées, et donc une conséquence directe sur la fréquentation des lieux publics, des bars, des restaurants, et bien entendu des cinémas. Très très concrètement, on voit que certains cinémas, que ce soit pour le French Film Festival, mais globalement pour l'ensemble de leur programmation, connaissent une diminution de leur fréquentation. Donc c'est un peu difficile. On est là à ce jour à peu près à 60% de la fréquentation qu'on avait au même moment pour l'année dernière, par exemple. Voilà, donc le festival n'est pas tout à fait terminé, il reste quelques jours. On essaye de promouvoir évidemment nos dernières séances, mais en termes de chiffres précis, c'est un petit peu décevant par rapport aux années précédentes et par rapport à ce qu'on espérait. Sur les films, je disais tout à l'heure, effectivement, il y a sur les 42 films présentés, il y a des films dont on savait qu'ils marcheraient bien. Je citais effectivement Lost Illusion, par exemple, le film d'ouverture qui a fait un bon score, un bon trajet. Il y a des films aussi dont on pensait qu'ils fonctionneraient, même s'ils sont plus difficiles. Je pense à Far Away Mr. Huffman, qui est donc ce film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. C'est un très très beau film, un film dur, parfois un film assez intense, mais vraiment un très beau film et qui a vraiment trouver son public. Et puis il y a des petites surprises, comme j'évoquais effectivement avec Kitchen Brigade, dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il ait un aussi beau succès. Et voilà, donc encore quelques jours avant de faire un bilan vraiment définitif, mais globalement voilà des belles soirées qu'on a pu avoir avec des événements spéciaux, des films vraiment vraiment divers et qui pour certains ont trouvé un public pas forcément attendu, mais malgré tout voilà un bilan en chiffres bruts de fréquentation inférieur à ce qu'on espérait.
Est-ce qu'on peut parler à ce stade des activités culturelles qui vont se poursuivre à l'Alliance française de Perth? Il y a une soirée de wine tasting qui est prévue vers la fin du mois?
Exactement, ouais, tout à fait. Là, on va, renouer avec les traditions des soirées vins qui ont déjà eu lieu par le passé à l'Alliance. Alors, avec cette fois-ci, peut-être une petite valeur ajoutée, on va dire de pédagogie, si on peut dire. Donc là, c'est une soirée vin consacrée au vin rouge, et on va tester trois vins rouges différents, de trois régions différentes, et on va dire apprendre, alors en s'amusant bien entendu, mais et sur un ton très léger, mais apprendre avec nos amis australiens, et puis j'espère aussi nos compatriotes français, à tester un petit peu le vin, à goûter, faire un petit peu de vocabulaire, apprendre quelques mots de français. L'ensemble se fera en anglais, mais avec quelques mots de français quand même, avec une présentation des régions d'où viennent les vins, avec une présentation également de ceux qui ont fait fabriquer ces différents vins. L'occasion d'apprendre un petit peu d'œnologie, tout simplement, avec quelques mots de vocabulaire. Et tout ça, bien entendu, avec accompagné de bonnes choses à manger qui seront proposées, du fromage, de la charcuterie, enfin une belle soirée gastronomie française, ouais.
Et autre événement que vous prévoyez vers la fin du mois, c'est le café scientifique avec un focus sur l'histoire des femmes voyageuses.
Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc là, nous reprenons ce partenariat que nous avons avec, d'un côté, le Western Australia Museum, le musée Boulabardib, avec lequel nous travaillons depuis 2 ans, 3 ans maintenant de manière régulière. Et puis de l'autre côté, avec l'AFRAN, qui est l'association de recherche franco-australienne, donc qui réunit des chercheurs franco-australiens et des domaines de recherche scientifiques dans le domaine des humanités, entre France et Australie. Et donc en effet, on a une doctorante qui est française, qui prépare sa thèse ici en Australie, à UWA, et donc qui va présenter une partie de son travail sur les femmes dans l'exploration et les débuts de l'anthropologie en Australie, dans le Pacifique, à la toute fin du 18e et au 19e siècle. Une manière d'approcher un peu l'histoire à la fois française, européenne, australienne, hein, de cette époque-là, présentée par une doctorante française. Donc là aussi, la présentation se fait en anglais, mais avec évidemment quelques éléments francophones qui sont ajoutés. Et puis, parce que on appelle ça un café scientifique, on a décidé d'améliorer un peu les choses, et donc un vrai café sera proposé aux personnes qui viendront, avec quelques viennoiseries, des choses comme ça, voilà, histoire d'avoir un peu de temps aussi après la présentation pour discuter avec l'intervenante. Et peut-être partager avec les gens qui viendront y assister.
Et puis peut-être pour terminer, Thomas, un mot sur les cours du deuxième trimestre qui arrive prochainement.
Oui, tout à fait. Le deuxième terme commence donc le mardi 26 avril, hein, le lendemain d'Anzac Day, donc pour 10 semaines, comme d'habitude. Donc là, nous reprenons malheureusement, si je peux dire, nous reprenons nos cours en ligne pour une partie d'entre eux. Ici en Western Australia, nous sommes donc toujours soumis à cette obligation de respect de 2 mètres carrés par personne dans les lieux d'enseignement. Donc toutes nos salles de classe ne permettent pas d'accueillir tous les étudiants que nous souhaiterions. Par conséquent, certains cours sont passés en ligne. Nous allons reprendre sur le même schéma à partir de fin avril, et en espérant évidemment que avant la fin du terme, on puisse accueillir tout le monde en présentiel dès que ce sera possible. Donc des cours à la fois en ligne, à la fois en présentiel pour les petits groupes.
Ouais.
Donc on reprend notre offre évidemment avec des cours pour les débutants, des cours pour les avancés, pour les enfants, pour les adolescents. On a pour les adolescents des cours aussi de soutien à la préparation pour les élèves australiens, préparation de leurs examens de français. Ça marche toujours bien. Et puis toujours nos cours spécifiques pour le DELF, hein, puisque l'examen du DELF sera proposé au mois de mai. Et donc évidemment on propose à nos étudiants ou à ceux qui ne sont pas étudiants d'ailleurs, hein, qui peuvent venir préparer cet examen là avec un entraînement spécifique dans les semaines qui précèdent.
Merci Thomas, et je rappelle que vous êtes le directeur de l'Alliance française de Perth, et à très bientôt sur SBS French.
Merci beaucoup Jean-Noël, et à bientôt, et un grand bonjour à tous vos auditeurs.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SBS. Voilà, pire à la Sarasieke, tout qui t'en passe. Voilà, pire à la Sarasieke, Sarayé, lycée. Tout en
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous quittons sur ce morceau de Bibi Tanga and the Selenites, un morceau intitulé Be Africa. Notre prochain rendez-vous en direct, c'est dès demain, à 13h précise. Et puis, entre-temps, n'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter l'ensemble de nos émissions, interviews et reportages en podcast en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur toutes les applis audio. Je dis un grand merci également à Mickey qui m'a accompagné à la technique pour assurer cette émission. Et à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis moi à très bientôt. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.